Vous écoutez France Culture.
Anne Lorchouin a signé le journal et sera de retour à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître qui était Jacques de Rogy qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information. Municipal plus remaniement égale FN plus Manuel Valls. Voilà le raccourci et l'équation médiatique de la quinzaine politique écoulée. Reléguée au second plan, la vague bleue de l'UMP, la poussée écologiste et même la déroute socialiste, quasiment non traitée, le bilan de Jean-Marc Ayrault. En termes de couverture, les médias ont fait leur choix. Le Front National et le nouveau Premier ministre ont emporté la mise haut la main. Pourquoi ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin avec nos invités. Céline Pigalle, directrice de l'information du groupe Canal+, Benjamin Sportouche, journaliste politique à l'Express, et Johan Hufnagel, rédacteur en chef à Slate.fr. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Avec nous également la directrice du laboratoire communication et politique du CNRS, Isabelle Verramasson, membre de notre cercle d'observateurs des médias. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Et l'homme des images et du multimédia, Éric Chavroux. Bonjour Éric.
Bonjour.
Avec ce matin dans les coulisses, les indispensables Vincent Abouchard, Élise Leu et Mathias Mégis. Et comme toujours avec vous pour tous vos commentaires sur franceculture.fr. C'est le 125e numéro du Secret des Sources sur France Culture.
Bonsoir et bienvenue à tous. Quelques heures après la nomination du nouveau gouvernement, le Premier ministre Manuel Valls sera notre invité. Il répondra à nos questions sur la composition de ce gouvernement, sur la politique qu'il entend mener pour réduire le chômage et la dette et sur la rupture qu'il entend incarner avec son prédécesseur Jean-Marc Ayrault. Bonsoir, monsieur le Premier ministre.
Bonsoir.
Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation quelques heures seulement après l'annonce de la composition de votre gouvernement.
Moi, je souhaite une équipe unie, solide, tournée vers le seul objectif fixé par François Hollande, réussir, faire baisser le chômage, libérer les énergies. C'est vrai, les entreprises ont besoin de liberté, ont besoin de moins de charges, ont besoin d'embaucher plus rapidement. Il faut faire de l'apprentissage avec toute la liberté que l'on donne aux entreprises, aux collectivités territoriales comme les régions, la grande
un
priorité...
Un petit raccourci, un petit montage de l'ouverture du journal de 20h sur TF1 mercredi soir, la première intervention de Manuel Valls, Premier ministre. Tous les médias n'en ont eu depuis lundi soir que pour le nouveau locataire de Matignon qui a bénéficié d'une énorme couverture médiatique de portraits à gogo de lui ou de sa compagne. Petit échantillon ici sous nos yeux, dans ce studio, toutes les unes des news magazines, Marianne, Express, Le Point, Le Nouvel Obs, carton plein. Alors certes, il y a un nouveau Premier ministre, certes c'est un moment politique important, évidemment. Reste qu'on a l'impression que la couverture médiatique n'aurait pas été de cette ampleur si l'impétrant eût été un autre que Manuel Valls. Qu'est-ce qui fascine tant les médias, Céline Pigalle, Benjamin Sportouche, Johan Hufnagel? Céline Pigalle.
Certainement qu'on a tourné si vite la page de Jean-Marc Ayrault parce qu'au fond, on avait dit un certain nombre de choses déjà sur les couacs, sur ce qui dysfonctionnait et peut-être que dans la séduction qu'il peut exercer, mais dans les critiques qu'on adresse aussi, hein, on n'est pas fasciné par le personnage, on ne peut pas dire ça non plus. Mais dans la curiosité, en tout cas, qu'on a eue de lui, il y a le fait de se dire, au fond, on va avoir un partenaire plus efficace ou quelqu'un de plus évident.
Avec qui les médias vont mieux travailler?
Mieux, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera, je crois, qu'il comprend et qu'il accepte mieux les codes. Moi, je vais vous dire, en tant que responsable d'une rédaction de chaîne d'infos en continu, j'ai beaucoup entendu, depuis des années, combien c'est insupportable de travailler avec les chaînes d'infos, et alors qu'elles existent. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir accepter l'idée de disparaître. Et donc, au fond, plutôt que de subir, il faut certainement essayer de reprendre la main. Et on a vu un certain nombre d'épisodes. Je ne dis pas que Manuel Valls va y arriver. Je dis en tout cas...
Qu'il en connaît les codes et que donc...
Et que pour commencer, il ne va pas faire comme si elle n'existait pas. Et encore moins, il va en tout cas essayer de ne pas les subir. Et en tout cas, dans l'aspect, on a parlé de lui et pas de Jean-Marc Ayrault. Je crois qu'on avait dit déjà beaucoup de choses sur Jean-Marc Ayrault et que tout le monde était désireux, après cet épisode douloureux des municipales, de regarder ce qui se passait devant.
On va en parler. Benjamin Sportouche, Johan Hufnagel, Manuel Valls, bon client, qui fait vendre?
Oui,
Benjamin Sportouche.
C'est vrai que Manuel Valls est un homme de communication. Il a à peine 50 ans. Il est plus jeune que Jean-Marc Ayrault. C'est un homme de télévision. C'est un homme qui a été lui-même en charge de la communication sur Lionel Jospin pendant 4 ans. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, il connaît toutes les ficelles de la communication. Il les a déjà exploitées. Il va certainement les exploiter à nouveau. Donc, c'est un homme, oui, qui fascine parce qu'on l'a déjà vu faire. On a mis, nous, en ligne sur l'Express.fr une émission à laquelle il avait accepté de participer qui s'appelait « Bonsoir, Monsieur le Président », qu'il se met dans la peau du personnage en 2011. Donc, il était à fond. Il faut voir, ces images sont incroyables. Il est déjà dans la peau du Président de la République. Donc, il connaît ses ficelles-là. Mais ce qui est intéressant aussi, à mon avis, c'est que ce problème de communication de Jean-Marc Ayrault a été aussi perçu dans l'opinion. C'est-à-dire qu'au-delà des problèmes des journalistes à traiter Jean-Marc Ayrault parce que ça partait aussi un peu dans tous les sens, parce qu'il y avait une difficulté à appréhender le message du pouvoir, il y a aussi dans l'opinion publique une interrogation. Et peut-être nous avions nous-mêmes une difficulté à dire exactement ce qu'il s'y passait. Alors, est-ce que ça sera plus clair avec Manuel Valls? C'est peut-être ce qui va se passer, c'est peut-être ce qui nous intéresse aussi de savoir. Est-ce que le message sera plus clair ?
Jean-Yves Nagel, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de troublant ? C'est-à-dire se dire, ah ben chic, c'est un homme de communication. Oui, sauf que communication et information, c'est par définition pas la même chose.
Oui, complètement. Je crois qu'il y a deux phénomènes qui m'ont beaucoup frappé sur ces derniers jours. C'est à quel point la presse restait sarco-dépendante, qu'elle avait besoin d'avoir quelqu'un contre qui elle pouvait se construire ou avec qui elle pouvait se construire, et qu'elle a vu en Manuel Valls un Nicolas Sarkozy, alors qu'évidemment c'est pas le même genre, pas complètement le même genre, ils ont peut-être cet amour de l'écran en commun. Moi, ce qui m'a en revanche beaucoup fasciné, et mes petits camarades de l'Express se sont prêtés à un autre jeu ce matin, qui était de sous-titrer en vrai ce que pensait Valls quand il était interviewé sur TF1, moi j'ai trouvé ces phrases extrêmement creuses, mais creuses à un point que c'était même plus de la communication, c'était de la métacommunication, c'est-à-dire qu'ils ne disaient vraiment rien, on avait tellement l'impression qu'ils avaient eu peur pendant les deux premières années du quinquennat, qu'ils avaient tellement commis d'erreurs, que là, ils avaient une communication ultra maîtrisée et que du coup, c'était de l'anticommunication.
Alors, c'est intéressant justement de s'intéresser à ce rapport, comme toujours, communication-information. Et c'est intéressant aussi avec les images de presse. Éric Chavreau, vous qui vous y intéressez chaque semaine dans Le Secret des Sources. Là, on est frappé cette semaine, je le disais, le Premier ministre partout en couverture, etc. Avec des images quand même parfois très, très révélatrices du look de plus en plus étudié de Manuel Valls. Alors l'incarnation de ça, c'est la une de Paris Match.
Oui, c'est le Graal politique, hein, en quelque sorte. C'est un nouveau cap de franchi pour celui dont on a déjà évoqué ici d'ailleurs même les péripéties par rapport à ces looks qui ont suscité quantité de moqueries. Donc là, à peine nommé, il se retrouve dans plusieurs pleines pages du Figaro, ce qui est déjà un bel exploit pour un premier ministre.
Une énorme page du Figaro, même là on a sous les yeux, hein. Il prend toute la page du Figaro. Hein.
Premier ministre socialiste. Et puis donc, il est propulsé à la une de Paris Match, l'hebdomadaire d'actualité et people de référence. C'est une photo en couple, aux airs de Nicolas et Cécilia Sarkozy en pleine course à l'Élysée. On le voit, lui, alors particulièrement souriant, détendu, la chemise ouverte, sans cravate, mais très sobre au niveau de la
face caméra, hein,
de la tenue. Et puis alors, elle, sa femme Anne Gravoin, à ses côtés, qui le tient par une main glissée dans sa veste. Mais ce qui, en tout cas, moi m'a un peu surpris, c'est son sourire à elle, qui paraît bien plus crispé. Comme si, malgré la mise en scène glamour et évidemment très politique de cette image, comme si on lisait ce qui s'était passé, c'est-à-dire lui absolument ravi et fier de ses nouvelles responsabilités, et puis elle, finalement, qui semble un peu craindre ce qui peut se passer, le pouvoir qui emporte tout. Et en tout cas, on est bien loin de l'image que Paris Match avait proposé au moment de la nomination de Jean-Marc Ayrault. Alors lui, il n'avait pas eu droit à la une, il avait eu droit à une page intérieure, il était seul, il était dans une brasserie à Montparnasse, soi-disant après, à la sortie de la gare, et il était en train de lire l'hebdomadaire allemand Der Spiegel.
Alors, on voit bien à travers cette image, et à travers ce que vous disiez d'ailleurs auparavant les uns les autres, qu'il y a cette logique de communication très présente chez Manuel Valls et dans son équipe, on les connaît, ses communicants, Harold Dozy, etc. Mais que les médias entrent dans sa logique de communication. Et ça, c'est quand même un peu troublant, non, Benjamin Sportouche? Qu'il l'accepte, enfin qu'il ne s'y oppose pas en tout cas.
en même temps, c'est sûr que si toutes les prestations ressemblent à celles de TF1, il va y avoir un problème. On a l'impression même qu'il a peur lui-même de cette facilité à communiquer. C'est ça qui a été assez désarmant quand on l'a vu sur, quand on l'a vu sur TF1. C'était en effet d'une platitude incroyable. Alors, est-ce qu'il se réserve pour le discours de politique générale? Mais en même temps, il lui a tellement reproché d'être un peu le sosie de gauche de Nicolas Sarkozy qu'il a devant lui un vrai défi. C'est faciliter la communication et la pédagogie que François Hollande, dans laquelle François Hollande a échoué et Jean-Marc Ayrault encore davantage pendant 2 ans, et en même temps ne pas en faire trop, parce qu'on va lui coller à chaque fois cette idée de clone de Nicolas Sarkozy. Donc je pense que lui-même marche sur des œufs et qu'on va être obligé à chaque fois de regarder où il se situe. C'est un vrai défi, c'est pas seulement une facilité pour lui, je pense, cette communication.
Céline Pigalle, Jean-Yves Tinguel, sur cette question d'information, communication, enfin est-ce que les médias font le jeu de la com'?
Il n'est pas le même personnage que Jean-Marc Ayrault. Il joue plus le jeu d'une part, et d'autre part, il est éventuellement un tout petit peu plus glamour. Bon, voilà, c'est un fait. Vous, Jean-Marc Ayrault, n'allez pas avec sa femme au concert de Johnny Hallyday pour Paris Match, c'était moins pratique. Bon, voilà, ça existe. C'est-à-dire, c'est pas nous qui l'inventons, on le subit ou on surfe dessus éventuellement. Ça n'empêche pas, en effet, de se dire à quel point cette première intervention était fade. Il n'y avait rien dedans. Et donc, vous savez, les journalistes, ils vivent aussi dans une société. Ils sont pas des êtres, ils sont aussi des êtres de chair. Et encore une fois, il y a eu cette gifle de dimanche soir. Et donc, le lendemain, avec cette gueule de bois, il y a aussi cette aspiration à quelque chose. Il faut quand même un peu de mouvement. Donc, on vit un peu avec ça. Mais en revanche, en effet, quand vous voyez cette première séquence, vous vous dites, susciter autant d'attentes, et vous le dites sur l'antenne aussi, susciter autant d'attentes par cet effet de mouvement, il va falloir être à la hauteur. Et en effet, l'hypercommunication où on va tout verrouiller ne va pas permettre ça. Il est vraisemblable qu'ayant donné autant pour la conquête de ce poste, il n'était pas tout à fait à ce moment-là en situation d'être dans la posture suivante, c'est-à-dire de se projeter vers ce qu'il faut maintenant faire. Donc peut-être c'est aussi pour ça qu'il était aussi fermé et aussi peu à nous dire simplement ce qu'il allait nous proposer.
Isabelle Véramasson, Jean-Yves Tinguel parlait tout à l'heure de la référence Sarkozy. Est-ce qu'on n'est pas, après Sarkozy, avec Manuel Valls, dans ce traitement politique qui tente à personnaliser à l'extrême, à se focaliser sur la personnalité des dirigeants politiques?
D'ailleurs, j'ai trouvé que l'idée de faire un numéro aujourd'hui, le secret des ressources, en liant l'affaire Marine Le Pen et Manuel Valls, c'était une bonne idée dans la mesure.
En tout cas, les résultats du Front National, l'affaire Marine
Le Pen. Oui, alors pour moi, c'est ça. D'ailleurs, je me l'ai traduit. Alors, c'est effectivement, c'est mon travail personnel, je me suis dit qu'effectivement, il y a quelque chose de commun qui était l'envie de la part des médias de personnaliser la vie politique. Marine Le Pen est un personnage politique qui raconte une histoire très, très particulière, très, très, très originale par rapport à la classe politique habituelle. C'est la même chose pour Manuel Valls. Il y a une attente de récit, de storytelling, comme on dit, et les deux personnages vont tout à fait dans ce sens-là. Et on l'a bien vu dans ces incroyables unes et cette photo en pied de Manuel Valls, il y a là un héros hollywoodien presque, avec la coiffure, le regard. Je trouve ça très différent, moi, de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il y a effectivement des points communs entre Nicolas Sarkozy et Manuel Valls. Et il y a aussi pas mal de différences, et on va apprendre à les reconnaître.
Pour les médias qui peut-être sont un peu guéris de l'épisode Sarkozy, s'ils ont peut-être retenu quelques leçons et appris des choses. Et honnêtement, ça n'a pas du tout pris les mêmes proportions qu'avec Nicolas Sarkozy, en tout cas pas à ce
stade. Et on l'a vu être sur TF1, différentes communications, la recherche de ces mots, les « e » qui ponctuaient chacun de tous les trois mots, me faisaient beaucoup plus penser à Hollande qu'à Nicolas Sarkozy, qu'il se lâche beaucoup plus. Et on verra que la communication est très différente.
Un mot Céline Pigalle et après Jean-Yves Tinguel, sur l'impression que je n'ai pas
chose,
d'accord.
Là donc... aussi, les médias ne sont pas seuls, ils vivent dans une société là encore. Et d'une part, le fantasme de l'homme providentiel, il n'appartient pas qu'aux médias, il appartient peut-être aussi à notre corps social. Et les institutions qui poussent un homme pour être notre président et nous emmener quelque part, nous conduit aussi à chercher qui peut être cette personne.
Ouais. Jean-Yves Tinguel, ouais, pas tout à fait d'accord sur ce que disait Céline Pigalle sur Sarkozy,
c'est ça ?
Je pense qu'on n'est pas guéri de Sarkozy. À chaque fois qu'il apparaît, c'est l'hystérisation complète de la classe médiatique et de la classe politico-médiatique. Et que c'est vrai qu'elle ne voit pas dans Valls un successeur de Nicolas Sarkozy. Il n'est pas aussi fascinant que Valls. Et puis, pour rebondir sur ce que vous disiez sur la personnalisation et les médias qui personnalisaient, ce n'est pas que les médias. Moi, j'étais très frappé par la décision des Verts, notamment de Cécile Duflot, de se retirer du gouvernement pour des questions qui semblaient être des questions de personnes, bien plus que des questions de politique. Et c'est, moi, je trouve que voilà, Valls est un marqueur dans la gauche. Alors, c'est pour ça que du coup, sans faire d'analyse politique, il se retrouve pendant 2 ans ministre de l'Intérieur. Il est dans son rôle, ministre de l'Intérieur, les gros bras, l'autorité, le social-libéral. Et là, il se retrouve à arriver à gérer un gouvernement qui est un gouvernement un peu plus compliqué que ça.
Alors, on va aller un peu plus loin dans le raisonnement. Isabelle Vérin-Masson, vous prononciez le mot « storytelling ». On va écouter un spécialiste du storytelling, c'est l'essayiste Christian Salmon, qui était l'invité du journal de Stanislas Vazak sur France Culture il y a 3 jours.
On a une situation paradoxale où le président, surtout dans le quinquennat, on a employé souvent la figure de l'hyper-président, eh bien là, on a un hyper-premier ministre qui s'impose à un hypo-président. C'est extrêmement grave sous la Ve République de voir un président de la République qui n'est même pas en situation de choisir son premier ministre. Et c'est donc le crédit du président dans ce système institutionnel qui repose quand même sur lui, qui est menacé et qui est mis en péril.
Ce que laisse entendre Christian Salmon et qu'expliquait d'ailleurs également le patron de Mediapart et de Vie Plenel sur France Culture cette semaine, c'est que François Hollande, en choisissant aussi rapidement Manuel Valls au lendemain des municipales, que François Hollande a en quelque sorte obéi à une sorte de dictature médiatique, qu'il a suivi le tempo donné par les médias et que donc, vous voyez, le raisonnement Valls, chouchou des médias, donc médias contents quand Valls nommé.
Il a jamais été politiquement à choisir Manuel Valls. C'est vrai que c'était pas son premier choix. Il aurait préféré regarder Jean-Marc Ayrault. Il ne veut que de Premier ministre pendant son quinquennat. C'est important pour lui. Donc ça veut dire qu'il a grillé sa cartouche.
Mais est-ce que c'est les médias qui n'ont pas donné le tempo de
mais
cette
est-ce
désignation?
Est-ce que François Hollande avait d'autres choix dont il était convaincu? Est-ce qu'il avait dans sa manche un autre Premier ministrable qu'il aurait ardemment désiré?
Certes, mais ce n'est pas ma question, c'est une pigale. Ma question, c'est médias contents, parce que Valls chouchou des médias, et
mais
donc quand Valls nommé, bah, médias contents.
Mais très franchement, on avait déjà une storytelling avec François Hollande. On dit qu'il n'y a pas de storytelling avec François Hollande, il y en a depuis 2 ans. Bah, au-delà même de nos espérances parfois, en allant vers des choses qu'on n'imaginait même pas pour ce président. Maintenant, même les Français, je pense, ne sont plus vraiment dupes de cette storytelling. Alors là, je pense qu'il y a quand même une différence avec Nicolas Sarkozy. Parce que les sondages le montrent, il n'y a pas une aspiration pour Manuel Valls, comme il y en a eu une à un moment. Une sorte d'engouement en 2007 et même bien avant, en 2002, pour Nicolas Sarkozy.
Mais on n'est pas sur une sorte de dictature d'opinion médiatique avec une désignation de ce Premier ministre.
Il continue de faire de la politique comme un grand, François Hollande. Il ne faut pas exagérer non
plus. Et puis Isabelle Vérin-Masson.
On peut faire des analyses à l'envi sur le choix de François Hollande. On n'était pas dans sa tête au moment où il a pris cette décision. Qu'est-ce qu'il a pensé? Pourquoi est-ce qu'il l'a pris lui? Faire après des analyses comme ça, une fois que c'est fait, je trouve ça assez dangereux.
Isabelle Vérin-Masson.
Moi, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il n'avait pas le choix de Manuel Valls. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il pouvait aller chercher n'importe quel économiste à la Raymond Barre, ou que ça. Comme vous dites, il y a un sacré risque avec Manuel Valls aussi. En revanche, on a le sentiment qu'effectivement, Manuel Valls lui était venu de l'extérieur. C'est pas lui, c'était pas son choix de cœur. C'était quelque chose. Alors, nous pensons que c'est les médias. Les raisons politiques sont pas évidentes du tout. C'est pas du tout évident de lire l'échec au municipal comme une envie d'un homme politique de droite. Et en revanche, je pensais beaucoup à la manière dont Mitterrand a choisi Rocard. C'était pas son choix de cœur, c'était pas un choix politique, c'était un choix qui n'était pas un choix. Il lui était imposé par l'opinion publique, par les médias, par les sondages. Et il s'est dit, on me l'impose, eh bien, on va voir, je le prends. Une sorte de défi vis-à-vis des médias, de l'opinion publique et de la popularité.
Il y a quand même un alignement des planètes politiques. La ligne de François Hollande maintenant politiquement est quand même une ligne plus libérale, plus social-libérale, et celui qui, dont son parti représente cette ligne-là, le plus proche, c'est Manuel Valls, qui par ailleurs a été son directeur de campagne en 2012. C'est pas non plus des personnes éloignées.
À presque 8h30 sur France Culture, Céline Pigalle de Canal+, Joanne Uflinguel de Slate et Benjamin Sportouche de L'Express sont dans Le Secret des Sources.
Le télégramme est pour Manuel Valls. Monsieur le Premier ministre, su designación por el presidente François Hollande a la cabeza del nuevo gobierno trae causa del grave retroceso del Partido Socialista en las municipales del domingo.
Der rote Teppich für die Amtsübergabe wird bereits ausgerollt. 15 Uhr wird Jean-Marc Ayrault sein Amt an den neuen Premier Manuel Valls übergeben. Damit macht Präsident Hollande nach dem Desaster für die Sozialisten bei den Kommunalwahlen einen Befreiungsschlag.
Tous les médias européens ici, les Espagnols de Cadena Ser et les Allemands d'ARD ont traité le sujet, soulignant à la fois la rapidité du remaniement et le Desaster bei den Kommunalwahlen, comme on dit à l'ARD, le désastre des élections municipales pour le PS français. Ce qui nous conduit à un autre aspect du sujet, c'est que ce remaniement express, cette blitzkrieg, cette guerre éclair, dont est familière d'ailleurs la communication de Manuel Valls, a conduit quand même, vous le disiez Céline Pigalle, l'ensemble de la presse dès mardi matin à reléguer au second plan les résultats des municipales. Et est-ce que de ce point de vue, la presse ne s'est pas laissée instrumentaliser par la communication politique ? Hop, on tourne la page, il y a une déroute, puis vite, on passe à autre chose et toute la presse embraye. Céline Pigalle ?
Vous avez raison, ils nous ont pris de court en partie. On ne peut pas dire autre chose, mais pardon, c'est aussi de bonne
politique. Parce qu'il y avait un énorme sujet quand même avec ces résultats catastrophiques pour le PS.
Mais vous verrez qu'on y reviendra. Oui. Et c'est ce résultat-là, il plane au-dessus d'eux. Et on ne va cesser de continuer à en parler, de s'interroger sur ce que disent ces résultats, de s'interroger sur les rapports de force qu'ils ont fait naître. Je vais vous
donc
dire.
Donc blitzkrieg, moi, efficace à court terme, mais pas à moyen terme.
Nous avons commandé des sujets lundi, qui n'ont pas été diffusés mardi matin, parce qu'en effet, il y a eu une accélération du tempo, et au fond, les villes dans lesquelles nous étions retournés pour savoir pourquoi on avait voté de telle et telle manière, ceux-là, honnêtement, ils sont à la poubelle, on ne va pas les diffuser dans 15 jours. Mais en revanche, les interrogations, les sujets puissants qui agitent ce pays, le manque de perspective, finalement, dont se plaint l'électorat, ce sujet-là, il est pleinement et entièrement là. Et il ne suffira pas d'un remaniement et de quelques belles images pour le faire s'envoler. Donc, il s'est éloigné quelques heures, certainement. Et au fond, je pense qu'il y a eu, étant donné ce qu'on voit de l'appétit qu'ont eu les gens pour les émissions spéciales qu'on a pu consacrer au remaniement, qui avait une curiosité de savoir qui pouvait venir et peut-être avoir des résultats. Mais donc la demande de résultats, elle va revenir aussi vite.
Donc ce n'est pas un déni des médias devant les résultats du scrutin, c'est juste une opération de com' à court terme réussie.
Il y a quand même deux tours, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé juste après le premier tour, on a beaucoup insisté, on a été tous surpris par l'élection au premier tour à Hénin-Beaumont. Il n'y a pas eu de mouvement populaire. Ça, c'est quand même assez intéressant aussi d'un point de vue journalistique. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un mouvement populaire très fort ou de protestation devant des mairies. Ça a eu un petit peu lieu, mais vraiment brièvement. Et donc, c'est vrai que j'ai senti, oui, nous étions peut-être un peu désemparés aussi par cette sorte de non-manifestation, vous voyez, de désapprobation. Et puis, il y a une autre échéance qui se profile à très court terme. C'est les européennes. Donc, on est aussi dans cette posture-là. On a un gouvernement qui s'est mis en place très rapidement. Et c'est aussi l'attente qu'il y avait. On a beaucoup dit que les deux années ont été un peu lentes et que le début du quinquennat était très lent dans l'installation. Et là, on a eu tout l'inverse. Et on a été assez surpris de cette rapidité. Mais ça n'a pas gommé, je pense. C'est juste une parenthèse. D'ailleurs, le remaniement est quasiment derrière nous. J'ai l'impression qu'il a déjà fait un peu pchit. On va avoir des secrétaires d'État, mais tout de suite, on va embrayer sur qu'est-ce qu'ils vont faire et le pacte de responsabilité face à la protestation qui est dans les urnes.
Jean-Yves Nagel,
la séquence, pour utiliser des mots de la communication, remaniement, ça fait quand même plus d'un an et demi qu'elle dure. Donc, c'était presque... On l'a vu passer parce qu'on s'y attendait. On savait que ça arriverait. On se demandait si ça allait être le lundi, le mardi, le 1er avril, le 2 avril.
Mais ils ont évité le 1er avril. Hein,
c'est pas gagné. Avec François Hollande, on se demandait s'il allait pas nous sortir
un joli poisson. Ouais.
Voilà. Du coup, je pense qu'effectivement, ça a vraiment glissé sur à la fois les journalistes qui sont intéressés parce que c'est effectivement un événement majeur. Et puis voilà, on passe déjà pour le coup à autre chose et au vrai sujet.
Ouais. Isabelle Vermasson, évacuation des résultats des municipales pour vous ou pas par ce remaniement ? Est-ce que le remaniement a évacué les résultats des municipales ?
Indiscutablement. D'abord parce que effectivement, c'était très très rapide et c'était un événement très important qui succède à un événement. Un événement important qui succède à un événement très important. Je crois qu'il y a une vraie différence entre la nomination de Manuel Valls, qui est plus cosmétique, à mon avis, que cette incroyable défaite politique. Donc ça, c'est clair. Maintenant, il y a aussi, à mon avis, quelque chose de l'ordre de la stupéfaction dans la classe médiatique et, j'allais dire, chez les politologues. Hein, je parle aussi pour ma paroisse. C'est essayer de comprendre l'ampleur du tsunami. Je crois que, bien sûr, traditionnellement, les élections intermédiaires sont des échecs pour les gouvernements en place. Là, il y a quelque chose de différent. D'ailleurs, on a vu que les sondages n'avaient pas non plus prévu. À mon avis, c'est parce qu'il y a une inadéquation entre les questions que posent les sondeurs, les grilles d'analyse des journalistes et des politologues sur ce qui se passe en ce moment. Il va falloir réfléchir et d'une certaine manière, ce remaniement va donner un peu de temps aux gens pour prendre du recul, pour réfléchir. Et j'espère qu'effectivement, les journaux, les médias comme nous vont essayer de réfléchir à part ça. Mais pour l'instant, il y a une parenthèse. Quand même, il y a un côté incroyablement habile dans le fait d'aller très très vite d'accord et de repousser encore d'une semaine la nomination des secrétaires d'État. Donc il va quand même y avoir une deuxième séquence qui va encore éloigner
le
moment
discours de
l'analyse.
Générale.
Alors, on ne peut pas toujours accuser ce gouvernement.
Un tout petit mot là-dessus, parce que je voudrais qu'on passe au chapitre Front National.
Quand parfois ils font preuve d'une forme d'efficacité qu'on leur demande. Enfin, vous voyez, il faut tout n'est pas communication.
C'est
non
la même
plus.
Chose.
Et l'hyperactivité de ce remaniement était aussi à la hauteur de la débâcle. Donc, quelque part aussi, on
qu'est-ce
en parlait en disant c'est tellement rapide que voilà, la gifle est tellement forte qu'il a été acculé à changer très vite. Je pense qu'il y a un rapport entre les deux.
Pourquoi Manuel Valls et le Front National ont reporté la mise médiatique du remaniement et des municipales ce matin dans Le Secret des Sources sur France Culture? Comme toujours, vous commentez, vous critiquez, vous téléchargez, vous réécoutez sur franceculture.fr. Dans un instant, on remonte donc à l'épisode qui a précédé, les municipales. Juste après ce titre récent qui vient de susciter l'ire de Marine Le Pen, Ma colère, Yannick Noah.
Ma colère n'est pas amnésique, ma colère n'est pas naïve. Ma colère aime la République, mais en combat toutes les dérives. Ma colère croit en la justice, ma colère n'est que citoyenne. Ma colère n'est pas un vice, car elle combat toutes les haines. Ma colère aime la tolérance, ma colère ne triche jamais. Ma colère fait la différence entre une cause et ses effets. Ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale. Ma colère a peur aussi, c'est la peur son ennemi. Ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale. Car ma colère a tout l'honneur de combattre la leur.
C'est quand elle se retourne.
Lors de ces élections municipales, le Front National l'a donc emporté dans 11 communes sur 36 000. Et au soir du second tour, lors du grand rituel des résultats à 20h, l'ouverture de la soirée sur France 2 ressemblait à ça.
Il nous reste 5 secondes. Dans un instant, les premières réactions. Voilà, il est 20h. Voici les estimations Ipsos Teria pour le second tour de ces élections municipales 2014. Et on commence par la ville de Béziers. Et Robert Ménard obtiendrait 47,3%. Il serait donc élu devant Élie Aboud qui n'obtiendrait que 33%. Jean-Michel Duplat pour Divers Gauche obtient 18,9%.
À Nîmes, dans le Gard, c'est l'UMP Jean-Paul Fournier qui serait élu avec 46,9% des voix. Battu donc le candidat du Front National, Johan Gillet, Sylvette Fayet et la socialiste Françoise Dumas.
Perpignan tout de suite, Jean-Marc Pujol, UMP, élu 55,3%. Louis Alliot battu 47,7%.
Le FN a-t-il gagné? Oui à Béziers, non à Nîmes ou à Perpignan. Voilà quels étaient sur France 2 à 20h dimanche dernier les trois résultats livrés en ouverture, les plus importants donc, puisqu'en ouverture dans la hiérarchie de l'information. Autrement dit, la question clé était de connaître les résultats du Front National. Alors, il ne s'agit pas évidemment ici de contester la poussée du FN et de son implantation locale croissante, simplement de soulever, comme souvent ici, la question de la proportion. Est-ce que les médias n'ont pas accordé trop d'importance au sujet Front National? Céline Pigalle, Benjamin Sportouche, Johan Hufnagel. Benjamin
Sportouche. Honnêtement, je pense que c'est un premier test important pour ce Front National, nouvelle vitrine. Je dis bien nouvelle vitrine, pas nouvelle version, parce qu'on sait très bien que la souche est la même. Mais je pense qu'on était dans une attention particulière pour savoir si Marine Le Pen avait réussi son entreprise de conquête, de couche populaire. Donc ça a été vraiment un intérêt particulier. Et c'est pour ça. Alors est-ce que la couverture, elle a été
au-delà ? C'est la question de la proportion.
Oui, je ne pense pas. Je pense que vraiment, il y avait un intérêt pour savoir si ce Front National. Et je peux vous dire qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment insisté. Certes, il y a eu les grandes villes, mais on n'est pas allé voir là aussi où il s'est manifesté. Je pense à des villes comme du sud-est de la France où il a pris beaucoup sur l'UMP. Vous voyez ? Alors peut-être que là, il faut insister davantage, mais c'est aussi, le Front National est aussi important, même quand on n'en a pas parlé. Voilà.
Jean Hufnagel, puis Céline Pigalle.
Pour prendre la question de la proportion, il faut savoir de quoi on parle. C'est pour ça qu'il faut revenir quand même. Est-ce qu'ils ont gagné ou pas? Est-ce que le Front National a gagné ou pas? Quand on fait, ce qui est très compliqué quand on fait de la télévision et du flux en général, c'est à chaud, c'est d'avoir tous ces fameux petits résultats. Quand on regarde une semaine après les chiffres, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que le Front National fait, dans les villes où il s'est présenté, 600 villes, environ, je crois,
15%.
Ce qui est à peu près l'équivalent de ce qu'il faisait en 95.
Et en dessous du score de Marine Le Pen à la présidentielle.
Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas forcément une réussite. Est-ce que les fortes têtes du Front National ont été élues? Philippot, Alliot, Marine Le Pen, qui ne s'est pas présentée, n'ont pas été élues. Est-ce que c'est une réussite ou un échec? Bon, on peut après se dire qu'effectivement, il y a eu, comme tu le disais, des poussées dans les bastions, dans les places fortes, qu'ils ont remporté quand même des scores très très forts. Un premier tour, c'était jamais arrivé. À Perpignan, ils sont très très forts et qu'ils ont atomisé la gauche. Ils sont très présents dans les grandes villes. Donc c'est très compliqué de mesurer cette proportionnalité-là, justement, surtout à chaud. C'est pas pour défendre
Encore une fois, la question que je soulève, c'est celle de la proportion. C'est-à-dire que même si on prend l'étiage haut, c'est-à-dire en ne prenant que les villes où ils se sont présentés, 15%. Si on ramène au niveau national, on doit être à 7 à peu près, hein, mais si on prend les villes où ils se sont présentés, on est à 15%. On a certains médias qui ont accordé plus de 20% du temps de parole au Front National. Alors, c'est le cas de RMC, par exemple, pour parler.
Pour parler de Slate, on a la chance de ne pas avoir de journalistes politiques qui suivent les partis. Pour nous, c'est une chance, donc on a choisi de faire autre chose, de suivre les territoires et de travailler avec l'ORAP, l'Observatoire des radicalités politiques, qui sont des gens, qui sont des historiens, des sociologues, qui font un travail sur le fond depuis très très longtemps. Bon, bah, nous, on avait cette chance-là qui était de ne pas suivre, de ne pas être à chaud. Du coup, bizarrement, on a été assez calme sur le Front National, mais on en a beaucoup trop fait. Que je pense que justement d'avoir cette chance d'avoir des gens qui suivent le Front National, qui suivent l'extrême droite, fait qu'on a probablement fait plus de papier que sur d'autres partis.
On avait quand même perçu ce phénomène, on l'avait évoqué ici même d'ailleurs, au moment de la cantonale partielle de Brignoles, où on avait quand même eu un traitement énorme au niveau national de ce qui était une cantonale partielle.
Mais au fond, il y a des règles du journalisme qui font que ce qui est saillant, ce qui dépasse, est souvent surtraité par rapport à des choses plus régulières. Il reste que la vague bleue n'était pas un phénomène régulier de cette élection, parce qu'au fond, on n'avait pas vu venir le fait que le PS allait être balayé avec cette force, et qu'à l'inverse, l'UMP allait finalement gagner autant de mairies et reprendre autant de terrain.
C'est quand même ça le message essentiel de dimanche soir, ces 150 villes gagnées par l'UMP.
Mais à cela, on ajoute une autre dimension qui n'est pas rien, qui est le fait que malgré tout, l'UMP est un parti de gouvernement et que dans l'esprit général, une mairie tenue par le PS ou une mairie tenue par l'UMP, ça n'est pas la même chose qu'une mairie tenue par le Front National. Et donc au fond, le Front National est toujours géré aussi dans les médias comme une forme de menace. Et d'ailleurs, ça pose toutes les questions que nous avons tous autour de la façon de traiter le Front National. Les choses ont radicalement changé. Dans les années 80, il y avait des gens qui disaient de manière radicale « je n'invite pas le Front National, plus personne ne dit ça ». Moi, j'ai tenté d'avoir un dialogue avec ma rédaction depuis quelques mois sur la place que nous devions leur accorder et comment il fallait rester calme. Et comment notamment, par exemple, si on fait un sujet sur des listes un peu étranges avec des candidats du Front National qui n'ont pas l'air de s'être vraiment manifestés, on n'est pas obligé de leur poser la question à eux. On fait, nous, notre travail de fact-checking, d'enquête, et puis on n'a pas nécessairement le besoin de revenir. Donc c'est vrai qu'on a pris en partie de mauvaises habitudes, mais encore une fois, le Front National, il faudra revenir sur l'UMP. Il va falloir travailler le fait que l'UMP ait finalement fait de bons résultats, alors que globalement nous en disions tant de mal.
Et pas seulement l'UMP, parce qu'on peut regarder les résultats des écologistes, on peut regarder même les résultats des communistes qui, au bout, bon certes, ils perdent Bobigny, mais bon, globalement, ils se défendent pas si mal. Les résultats des centristes, UDI et Modem, enfin, tout ça sont des formations politiques qui pèsent, allez, à la louche de l'ordre de 10%, et le Front National en pèse 15, mais ils bénéficient d'une exposition médiatique sans commune mesure avec les trois formations politiques que je viens de citer.
Et en même temps, c'est vrai que l'UMP, avec le Modem et avec l'UDI, on voyait des forces qui s'alliaient. On sait aussi que le PS, avec les Verts, était dans des alliances au premier tour, au second tour. Ça s'est fait. Parfois, ça ne s'est pas fait. Alors que le Front National, tout seul, à ce moment-là, fait quand même une apparition dans la sphère politique importante, encore une fois, sous les couleurs de Marine Le Pen. Donc, il y avait beaucoup de phénomènes nouveaux qui se greffaient, qui, à mon avis, méritaient aussi une attention particulière. Certainement un décryptage qui a été fait aussi en amont, je pense. Nous, on a titré quelques jours avant sur le FN qui est parti à l'assaut, est allé à la rencontre de ces gens qui votent Front National, qui étaient à l'UMP et qui sont candidats Front National aujourd'hui parce qu'on est allé les chercher. Et je pense qu'il y a eu aussi des décryptages en amont. Maintenant, ce qui me semble important, c'est qu'il n'y avait pas d'alliance possible avec... Enfin, il y avait avec l'UMP des alliances possibles. Elles n'ont pas eu lieu. Ça veut dire que ce parti, avec Marine Le Pen, est arrivé à un score très important dans des communes importantes aussi. Marseille, c'est 140 000 habitants, le 7e secteur. On dit Stéphane, c'est 95. C'est pas vraiment,
enfin,
95.
En même temps, c'est un magistère un peu, j'allais dire, mais abstrait.
Mais c'est quand même une mairie d'arrondissement. Ça se serait passé à Paris, ça aurait été un arrondissement. Donc je pense quand même qu'il y a eu des villes très importantes. On n'a pas eu ça en 95. Donc voilà, ça s'est passé maintenant. Il fallait donc en parler. Le phénomène n'est pas de la même mesure, je pense.
Malgré tout, n'est-on pas passé, Eugène Hufnagel, d'une sous-représentation du Front National, c'était la plainte récurrente de Jean-Marie Le Pen, on s'en souvient, il n'avait pas tout à fait tort, à une sur-représentation du Front National dans les médias.
C'est très possible. Après, qualitativement, je trouve que le travail qui a été fait sur le Front National est de bien meilleure qualité. Et quand même bien meilleur, le travail qui est fait sur les télévisions, par les signes d'information, montre qu'il y a une approche du Front National qui n'est plus que morale. Et qui est quand même beaucoup plus intéressante. C'est peut-être, ça explique aussi peut-être qu'on en ait fait beaucoup, c'est qu'on a eu des journalistes qui ont travaillé vraiment sur le fond, sur de nouvelles approches du traitement du Front National, beaucoup moins sur la posture. Et c'est peut-être ça qui a changé.
Benjamin Sportouche évoquait Marine Le Pen à l'instant, se polariser sur Marine Le Pen. Isabelle Vérin-Masson, est-ce qu'on est là à nouveau, comme vous le disiez tout à l'heure, dans un effet personnalisation de la vie politique, c'est-à-dire intérêt pour Valls, intérêt pour Marine Le Pen?
Oui, c'était beaucoup plus facile d'attaquer Jean-Marie Le Pen que Marine Le Pen, qui a un discours vraiment incroyablement construit et assez difficilement attaquable. Donc les journalistes sont toujours obligés d'aller chercher derrière ce qu'elle devrait dire, ce qu'elle pourrait dire, etc. C'est extrêmement difficile d'analyser tout ça. Et en plus, elle, effectivement, c'est une personne, donc elle est convenable, donc c'est possible de l'analyser. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est à quel point les médias sont piégés par la non-reconnaissance du Front National. C'est-à-dire que les médias ne traitent pas le Front National comme un parti comme les autres. On peut le critiquer, c'est-à-dire on peut considérer que c'est lui donner trop d'importance, ou que c'est pas normal parce que c'est un parti comme les autres, c'est ce que revendique Marine Le Pen. Et en même temps, en ne le traitant pas comme un parti comme les autres, on ne le diabolise pas. C'est pas tout à fait ça. C'était le cas quand c'était Jean-Marie Le Pen. Non, on lui donne on conforte ce discours de Marine Le Pen qui consiste à dire « essayez-moi ». Vous verrez, moi, je suis autrement. Et elle ne dit pas « je suis autrement parce que je suis d'extrême droite ». Elle dit « je suis autrement ». La preuve, c'est que les médias me traitent autrement. D'une certaine manière, les médias, en ne traitant pas Marine Le Pen et le Front National comme un parti comme les autres, légitiment ce discours qui est « nous ne sommes pas comme les autres, donc essayez-nous ». Moi, je crois qu'une des raisons pour lesquelles le Front National a remporté ce succès, c'est sur ce mode-là. C'est sur cette raison-là qui est « essayez-nous, nous ne sommes pas comme les autres ».
Vieux débat dans la presse. Hein,
oui,
c'est
un petit peu différent du débat.
C'est peut-être justement.
Enfin, il a évolué, mais c'est un débat.
C'est peut-être parce que le traitement a évolué qu'on a essayé justement de ne pas être piégé par la posture. C'est peut-être qu'on en a peut-être trop fait. Hein. Moi, on peut toujours se poser la question si on a trop fait, pas assez fait. Mais on est rentré dans une discussion avec le Front National qui était « Ok, vous voulez être traité comme un parti comme les autres, on va vous traiter comme un parti comme les autres ». Alors voilà, après, c'est l'impression que j'en ai, hein, on a été un peu meilleur. Mais il y a des chercheurs, il y a plein de gens qui trouvent qu'on en aura trop fait, qu'on en aura toujours trop fait.
C'est pas le même Front National, il faut bien voir quand même que Jean-Marie Le Pen était dans une posture de provocation, il faisait beaucoup de bruit, il s'agitait beaucoup, mais au total, on l'imaginait pas trop, et notamment pas, via les territoires, arriver quelque part. Et donc aujourd'hui, quand, de manière très nette, Marine Le Pen nous dit « je vais arriver par les territoires », il y a en effet une tentation, parce que vous avez raison. La position qui est la sienne et qui consiste à dire « je suis hors système, essayez-moi », n'est pas tenable. Néanmoins, c'est un artifice de discours qui fonctionne. Et donc, qui nous conduit à aller voir, dans les faits, qui sont les gens qui travaillent pour elle, dans les mairies, sur le terrain, peut-être un peu trop. Mais Marine Le Pen et le parti, le Front National, ça n'est pas anodin. Et donc, peut-être le surgère-t-on un petit peu, c'est vraisemblable. Et en même temps, on ne peut pas faire comme si c'était anodin.
Sur ce volet de la personnalisation, je voudrais qu'on s'arrête évidemment aussi, Éric Chavroux, sur l'image de Marine Le Pen dans les médias. Il y a évidemment un enjeu de communication là aussi. Il y a une double anecdote révélatrice ces derniers jours sur Marine Le Pen, une en Italie et une en France.
Oui, alors la première en Italie, c'est la dame en noir, l'a-t-on surnommée, parce qu'elle était vêtue ainsi au premier tour des municipales quand elle a voté à Hénin-Beaumont. Et du coup, les grands quotidiens italiens ont repris l'image en une. Ils ont joué de cette couleur, hein, de sinistre mémoire, évidemment, en Italie, par rapport aux chemises noires de Mussolini. Et par exemple, la Stampa a titré « Le triomphe de la dame en noir ouvre la voie aux eurosceptiques ». En évoquant une poussée populiste à côté d'une image de Marine Le Pen votant avec un grand sourire.
Et en France, c'est avec Le Monde, à ça qu'il y a eu un épisode
Oui, et alors cette fois, c'était en ligne, c'était vendredi dernier, à 48 heures du second tour des municipales. Et là, le quotidien publie donc en ligne, c'est important, une interview exclusive de Marine Le Pen qui détaille sa stratégie de conquête du pouvoir et... À côté, pour vendre cette interview, on a droit à une photo d'elle, qu'on pourrait appeler la dame en kaki cette fois-ci. Donc sur son visage, en plan serré, son visage est pensif. Elle se tourne vers nous, elle nous regarde. Et puis, elle relève de la main un côté de sa veste. Alors là, tout de suite, il y a certains sites et beaucoup d'internautes qui, via Twitter, critiquent cette photo, photo glamour, de mode, un cadeau fait au Front National. L'image, elle va alors être remplacée en une du site du Monde par une photo beaucoup plus classique, politique. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a appris par arrêt sur image que le Monde réfute avoir cédé à la pression du web et qu'en fait, il s'agirait d'un recadrage qui finalement n'avait pas été jugé si pertinent que ça, parce que effectivement, la photo d'origine était un portrait jusqu'à la taille. C'est une photo assez peu courante d'ailleurs, plutôt originale, qui date de 2012 et qu'on peut retrouver à l'intérieur du site et puis aussi dans la version papier du Monde, évidemment.
Alors vous disiez, il y a un traitement exceptionnel du Front National par rapport aux autres partis. Moi, j'ai envie de prendre la question à rebours. Est-ce que à l'inverse, dans les médias, il n'y a pas un effet mécanique de reflet de la société, de l'évolution de la société française qui tend vers des valeurs un peu plus conservatrices, on va dire? Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un glissement à droite qui rend les médias aussi plus compréhensifs, à tout le moins, vis-à-vis du Front National et de ses thèses? Ça vous laisse sceptique, Benjamin Sportouche?
À mon avis, nous-mêmes, nous avons des interrogations sur ce Front National de version Marine Le Pen. Voilà. Et c'est vrai qu'on essaye de comprendre le personnage et on ne veut pas tomber dans les mêmes travers, c'est vrai, de diabolisation, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose. Il est plus intéressant d'aller vers le décryptage. Et en même temps, comme elle est dans cette banalisation, cette normalisation des rapports avec les journalistes, dans cette recherche de complicité, de connivence que ne cherchait pas Jean-Marie Le Pen, ça rend les choses plus compliquées. Et de fait, il faut prendre garde de ne pas utiliser le même vocabulaire. Quand elle parle de tripolarisation, j'avoue que l'avoir beaucoup entendu m'a surpris. Non, pour l'instant, il n'y a pas de tripolarisation de la vie politique française, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'alliance possible avec d'autres partis. En tous les cas, à ce stade, il y a eu... Je pense que s'il y a une droitisation, c'est pas le premier moteur de notre intérêt.
Mais elle existe, cette droitisation de la société française, et par définition les médias la reflètent, enfin en sont l'incarnation, c'est assez logique aussi d'une certaine façon. Donc est-ce que ça ne conduit pas mécaniquement à plus de compréhension vis-à-vis du Front National qui a 15 ans, tout très très primairement, j'allais dire très simplement? Céline Pigalle.
Peut-être que ce phénomène existe, mais il ne faut pas négliger d'autres choses. Quand je vous disais, dans les années 80, on pouvait dire « je ne reçois pas, quoi qu'il arrive, Jean-Marie Le Pen » aujourd'hui, par les règles simples du temps de parole, et à partir du moment où le Front National a des députés, vous devez du temps de parole au Front National équitable. Enfin, vous voyez, un certain temps de parole, et quand vous avez 19 heures d'antenne, ça leur fait un certain espace médiatique que vous ne pouvez pas leur refuser.
Mais encore une fois, à ce compte-là, il devrait y avoir au moins autant d'écologistes ou de Front de Gauche. C'est pas vrai partout.
D'accord.
Mais bon, enfin, on pourrait examiner les chiffres en détail, mais c'est pas vrai partout. Je parle pas d'ITL là, Jean-Yves Nagel, sur cette...
Reflète cette
évolution de la société française et compréhension vis-à-vis du Front National.
La société française est une société qui traverse peut-être plus que beaucoup d'autres une crise extrêmement grave. Et quand on est dans des crises très très graves, on a peut-être un besoin supérieur de protection. Alors est-ce que ces protections vont aller nous chercher vers du « c'était mieux avant », des formes de protection dans le travail, dans le protectionnisme c'est compliqué. À chaque fois qu'il y a toutes les études montrent que c'est pas évident cette droitisation de la société française. Ça dépend des âges, ça dépend des gens qui votent. Tout ça, c'est des choses qui sont compliquées.
On arrive au terme de l'émission. Je voudrais quand même pour conclure qu'on soulève la question du lien entre les deux phénomènes qu'on a évoqués, c'est-à-dire poussée du Front National, poussée médiatique aussi du Front National et priorité valse dans les médias. Les médias n'ont pas vraiment fait de lien entre les deux événements, mais quand on regarde la séquence dans sa totalité, municipale plus remaniement, c'est quand même ce qui frappe. Est-ce qu'il faut y voir quelque chose, Isabelle Vérin-Masson? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, il y a un lien de causalité entre la poussée médiatique du Front National et la sacralisation médiatique de Manuel Valls, du moins pour l'instant?
Oui, alors je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de droitisation, parce qu'on ne sait plus très bien ce qu'il y a, quels sont les critères de droite et de gauche actuellement. Donc il va falloir repartir avec d'autres, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec d'autres valeurs, d'autres critères pour qualifier tout ça. En revanche, ce qui est très frappant quand on voit ces deux personnalités qui émergent dans les médias, qui sont commentées, qui intéressent, qui fascinent presque, c'est qu'ils portent tous les deux des valeurs communes qui sont l'autorité, la force, la détermination et le refus de l'autre, quand même. C'est-à-dire cette espèce de... Vous savez, la société se clive maintenant entre le in et l'out. C'est-à-dire que j'ai peur, je me replie sur moi parce que j'ai peur de l'autre, j'ai peur de celui qui vient de l'extérieur. Et tous les deux apparaissent comme deux remparts vis-à-vis de cet extérieur, de cet autre, de celui qui risque d'arriver chez vous et qui vous menace. Et là, je ne suis pas sûre que ce soit le clivage droite-gauche. On a le sentiment que de temps en temps, ça traverse les familles politiques.
Les médias en quête d'une figure d'autorité, à la fois dans le cas Manuel Valls et dans le cas Marine Le Pen, même si évidemment ils sont très différents, Marine Le Pen et Manuel Valls, c'est pas ça la question, mais est-ce qu'il y a une quête par les médias d'une figure d'autorité post-sarkozienne?
Est-ce qu'il y a une quête, je vous renverrai la question, est-ce qu'il y a une quête de la société française d'une figure d'autorité? Est-ce que les institutions privilégient, favorisent l'émergence de personnages forts? On parlait même des Verts tout à l'heure. Mm-hmm. Cécile Duflot peut-être joue avec cet espace-là d'être un personnage dans le jeu politique. Vous voyez, ça peut toucher toutes sortes de familles politiques.
Jean-Yves Nagel, puis Benjamin Sportouche, là-dessus.
François Hollande, pendant la première partie de son quinquennat, a joué le... Même pendant sa recherche d'élection, a joué le président normal. Ça lui a manifestement pas réussi. Ce qui revient...
Il y a des élections, quand même.
Il les a gagnées sur ce programme-là, d'être... contre l'autre. Et là, une fois qu'il est aux manettes, est-ce que... Alors, c'est peut-être le café du commerce de dire que oui, on recherche la figure tutélaire, le De Gaulle...
C'est quand même frappant dans le cas de Manuel Valls et de Marine Le Pen.
Les institutions sont comme celles-là aussi. Hein. Elles demandent un chef, elles demandent un leader, un président
ça,
de la République.
Ça, c'est un sujet que les médias n'adorent pas, la réforme des institutions, mais voilà. Il y a peut-être un petit sujet, là.
Oui, mais c'est vrai que François Hollande était dans cette recherche d'anti-personnalisation du pouvoir, et finalement, il est obligé d'aller là-dedans, ou alors, visiblement, il, en prenant ce Premier ministre-là, il essaye peut-être de trouver un paravent pour lui. J'en suis pas sûr. Je pense qu'il est en train d'intégrer complètement cette personnalisation de la Ve République, du quinquennat, pour le meilleur et pour le pire. Et je pense qu'en ce moment, on n'est peut-être pas en train d'en vivre le meilleur.
Allez, comme toujours, le dernier mot revient au clin d'œil de Yacine Bouzard. Yacine nous livre un petit cours à sa façon de statistiques et de probabilités sur le ratio entre les villes gagnées par le Front National et le temps d'antenne qui leur a été consacré.
Du bleu marine sur le 13e et 14e arrondissement de la 2e ville de France, pour André, un vieux militant des quartiers sud, cela valait bien une Marseillaise.
Pendant ces élections municipales, le Front National était partout tout le temps.
C'est la preuve du système UMPS selon le Front National.
Papier.
Aujourd'hui, Philippe Godin a donc choisi de faire alliance avec le Front National pour être sûr de l'emporter.
Reportage, analyse.
Alors oui, le Front National a bel et bien atteint son objectif.
Eh bien tu sais quoi? Quand il aura gagné 60 villes, il aura 100% du temps d'antenne consacré au FN.
Explique-moi ça, comment ça?
Eh bien c'est simple. Sur 36 000 communes, le FN remporte 15 villes. Et le parti a eu autour de 20% d'antenne. Tu me suis?
Attentivement, oui.
Donc si tu fais le calcul, tu multiplies par 2 le gain des villes, on obtient 30 villes, ce qui fait 50% d'antenne.
Ok, j'ai compris. Donc si le FN obtient 60 villes, 100% du temps d'antenne sera consacré à ce parti.
C'est ça. Et s'il doit y avoir une morale à ces municipales, si tu veux que l'on parle plus de toi, il faut que tu gagnes moins de villes.
Clin d'œil de Yacine Bouzard, le monsieur cyclopède du secret des sources, avec la complicité de Véronique Rebérotte et Cyril Baer. Municipal et remaniement, pourquoi le FN et Emmanuel Valls ont remporté la mise médiatique? C'est à commenter, à réécouter, à télécharger sur le site du secret sur franceculture.fr. Céline Pigalle, Benjamin Sportouche, Joanne Hufnagel, Éric Chavroux, Isabelle Véramasson étaient ce matin dans le secret des sources. Merci à tous. Notez également que demain soir, dans Dimanche et après, sur France Culture, Olivia Gesbert reviendra sur la nomination de Ségolène Royal au ministère de l'écologie. Dans quelques minutes après le journal d'Anne-Laure Chouin, réplique sur France Culture ce matin, Pensez avec Montaigne. Alain Finkielkraut reçoit Frédéric Brahimi et Pierre Manon. Prenez soin de vous.
Les sujets puissants qui agitent ce pays, le manque de perspective finalement dont se plaint l'électorat, ce sujet-là, il est pleinement et entièrement là. Et il ne suffira pas d'un remaniement et de quelques belles images pour le faire s'envoler. Donc,
on conforte ce discours de Marine Le Pen qui consiste à dire « Essayez-moi, vous verrez, moi je suis autrement ». Et elle ne dit pas « je suis autrement parce que je suis d'extrême droite », elle dit « je suis autrement ». La preuve, c'est que les médias me traitent autrement. D'une certaine manière, les médias, en ne traitant pas Marine Le Pen et le Front National comme un parti comme les autres, légitiment ce discours qui est « nous ne sommes pas comme les autres, donc essayez-nous ».